Il toisa Cermak de la tête aux pieds et reprit sans se départir de son calme. Quand Harry Seldon a installé la fondation ici, c'était dans le but avoué de publier une grande encyclopédie. Et durant 50 ans, nous avons suivi cette fausse piste, avant de comprendre où il avait vraiment voulu en venir. À ce moment, il était déjà presque trop tard. Quand les communications avec le centre de l'ancien empire se sont trouvées rompues, nous nous sommes retrouvés avec cette ville de savants pour seule et unique ressource, sans industrie, et entourée de royaumes neufs, hostiles et pratiquement barbares. Nous n'étions plus qu'un minuscule îlot de puissance nucléaire au milieu de cet océan de barbarie, et par conséquent une proie infiniment enviable. Anacréon, qui était alors comme aujourd'hui le plus puissant des quatre royaumes, a exigé et obtenu l'établissement d'une base militaire sur Terminus. Ceux qui étaient alors en charge des affaires de la cité, les encyclopédistes, savaient pertinemment que ce n'était là que le prélude à une annexion totale de notre planète. Telle était la situation quand j'ai, disons, pris en charge les affaires. Qu'auriez-vous fait à ma place ?
Cermak haussa les épaules.
C'est une question de pure rhétorique. Je sais évidemment ce que vous avez fait, vous.
Je vais quand même le rappeler brièvement.
J'ignore si vous avez bien compris ce qui s'est passé. La tentation, bien sûr, était grande de rassembler toutes les forces dont nous pouvions disposer et de livrer bataille. C'est toujours la solution la plus facile et la plus satisfaisante pour l'amour propre, mais presque invariablement la plus stupide aussi. Vous, par exemple, c'est ce que vous auriez fait, vous qui ne parlez que d'attaquer les premiers. Mais pour ma part, je me suis rendu tour à tour dans chacun des trois autres royaumes. À chacun, j'ai fait observer que laisser tomber aux mains d'Anacréon le secret de l'énergie atomique était pour eux un suicide, et je leur ai gentiment fait comprendre qu'il ne leur restait qu'une chose à faire, rien de plus. Un mois après le débarquement des forces anacréoniennes sur Terminus, le roi recevait un ultimatum rédigé conjointement par ses trois voisins. 7 jours plus tard, le dernier anacréonien quittait Terminus. Dites-moi maintenant, était-il nécessaire de recourir à la violence ?
Le jeune conseiller considéra d'un air songeur le mégot de son cigare, puis le lança dans le conduit de l'incinérateur.
L'analogie m'échappe. L'insuline rendra un diabétique normal sans qu'il soit besoin d'utiliser un bistouri, mais dans le cas d'une appendicite, on est bien obligé d'opérer, c'est comme ça. Quand les autres méthodes ont échoué, que reste-t-il à part ce que vous appelez l'ultime refuge ? Si nous sommes aujourd'hui dos au mur, c'est bien à vous que nous le devons.
À moi ? Ah oui, c'est vrai. Moi et ma bande de pacifistes.
Vous me semblez n'avoir toujours pas pris conscience des éléments fondamentaux du problème. Nos difficultés n'ont pas disparu avec le départ des Anacréoniens. Elles n'ont fait que commencer. Les quatre royaumes étaient nos ennemis plus acharnés que jamais, car chacun voulait posséder le secret de l'énergie atomique. Et seule la crainte des trois autres l'arrêtait dans son entreprise.
Nous sommes sur le fil du rasoir, et le plus léger déséquilibre. Si par exemple un des royaumes devient trop fort, ou si deux d'entre eux forment une coalition, vous comprenez ?
Parfaitement. C'est alors que vous auriez dû commencer les préparatifs de guerre ?
Au contraire. Il était temps de commencer à tout mettre en œuvre pour empêcher la guerre. J'ai joué chacun des royaumes contre l'autre. Je les ai tous aidés à tour de rôle. Je leur ai donné la science, l'instruction, la médecine scientifique. J'ai fait de Terminus
un monde qu'ils ont intérêt à laisser prospérer plutôt que d'en faire un objectif militaire. Cela a marché pendant 30 ans.
Oui.
Mais vous avez été contraint de travestir ces connaissances scientifiques sous tout un appareil de superstitions ridicules. C'est un scandale.
La science est devenue un mélange de religion et de charlatanisme.
Vous avez créé de toutes pièces une hiérarchie de prêtres et leur avez donné un rituel absurde et compliqué à observer. C'est ridicule.
Et alors ?
S'étonna Hardin en fronçant les sourcils.
Je ne vois pas le rapport avec la discussion.
J'ai commencé d'agir ainsi parce que les barbares considéraient notre science comme une sorte de sorcellerie et qu'il était plus facile de les amener à l'accepter sur cette base. Le clergé s'est fait lui-même et nous avons favorisé sa création parce que nous avons toujours suivi la ligne de moindre résistance.
Mais c'est un aspect mineur du problème.
En tout cas, ces prêtres contrôlent les centrales atomiques. Si ça, c'est un aspect mineur, je vous l'accorde.
Mais c'est tout de même nous qui les avons formés.
La connaissance qu'ils ont de leurs instruments n'est qu'empirique. Et ils croient dur comme fer au cérémonial de bazar dont ils se sont entourés. Et si l'un d'eux n'y croit pas? Et qu'il est en outre le génie suffisant pour dépasser le stade de la connaissance empirique? Qu'est-ce qui va l'empêcher de découvrir le secret de la technique et de le vendre au plus offrant? Quel intérêt présenterons-nous alors aux yeux des royaumes?
Il est très peu probable que cela se produise, Cermak.
Vous n'avez de la situation qu'une vue superficielle. Chaque année, l'élite des royaumes est envoyée à la Fondation afin d'y être initiée à la prêtrise. Et les meilleurs d'entre eux restent ici. Nous les intégrons en tant qu'étudiants à nos centres de recherche. Si vous croyez que les autres, qui ne possèdent même pas les rudiments d'une culture scientifique, ou ce qui est pire encore, qui n'en connaissent que la version déformée à l'usage du clergé, sont capables d'assimiler d'un coup les principes de l'énergie atomique, de l'électronique et la théorie des hypercourbes, eh bien vous vous faites de la science une idée bien romanesque et bien naïve.
Il faut plusieurs générations et un cerveau hors pair pour acquérir toutes ces connaissances.
Johan Lee s'était levé au milieu de la tirade de Hardin et avait quitté la pièce. Il revint au moment où le maire finissait de parler et se pencha à l'oreille de son chef. Il lui chuchota quelque chose en lui remettant un petit cylindre de plomb. Puis, lançant brièvement un regard hostile vers les délégués, Lee reprit sa place.
Hardin fit rouler le cylindre entre ses paumes tout en surveillant du coin de l'œil la délégation.
Puis il dévissa la capsule d'un geste sec.
Seul Cermak fut assez avisé pour ne pas chercher à lire ce qu'il y avait décrit sur le rouleau de papier qui en tomba.
Bref, messieurs, reprit Hardin, le gouvernement estime qu'il sait ce qu'il fait.
Tout en parlant, il déchiffrait le document, un code compliqué, et sans réelle signification recouvrait toute la page, y compris 3 mots griffonnés au crayon dans le coin de la page et qui constituaient, eux, le véritable message. Quand il eut pris connaissance de son contenu, Hardin le lança d'un geste négligent dans le conduit de l'incinérateur. Puis il ajouta
« Voilà qui met un terme à notre entretien. Très heureux d'avoir fait votre connaissance, jeunes gens. Merci d'être venus. »
Il distribua quelques poignées de main condescendantes et les 4 délégués sortirent. Hardin avait presque perdu l'habitude de rire, mais quand Cermak et ses 3 acolytes furent hors de portée de voix, il se permit un petit gloussement amusé et glissa un regard complice à Lee.
Belle partie de poker, menteur. Vous ne trouvez pas, Lee?
Je ne suis pas si sûr que lui bluffait, marmonna Lee.
Si vous le ménagez, il est bien capable de l'emporter aux prochaines élections comme il le prétend.
C'est cela, oui.
Bien sûr.
S'il n'arrive rien d'ici là.
En tout cas, cette fois, Tâchez de vous arranger pour qu'il n'arrive rien qui puisse contrarier vos projets, Ardyn. Je vous le dis et je vous le répète, ce Cermak n'est pas tout seul. Et s'il n'attendait pas les élections, souvenez-vous, il nous est arrivé à vous et à moi de précipiter un peu les choses, malgré votre slogan sur la violence. Haussant subitement les sourcils, Ardyn répondit « Je vous trouve bien pessimiste aujourd'hui, Lee, et vous faites preuve d'un esprit de contradiction pour le moins singulier. Qu'est-ce que vous me parlez de violence ? Quelle violence ? Un petit putsch entre amis, tout au plus, sans la moindre goutte de sang versé. L'auriez-vous déjà oublié ? Nous avons fait ce qu'il fallait faire quand il fallait le faire, et toute l'opération s'est déroulée sans douleur. La situation de Cermak est tout à fait différente. Vous et moi, mon cher Lee, nous ne sommes pas des encyclopédistes. Nous sommes prêts. Voilà ce que vous allez faire, mon vieux complice. Vous allez me mettre tous ces jeunes gens sous surveillance. Collez-y donc vos hommes, mais en douceur. Qu'ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont surveillés. Mais ayez-les à l'œil. Lee eut un petit rire narquois. Heureusement que je n'ai pas attendu d'avoir vos instructions, Ardyn. Cermak et ses hommes sont sous surveillance depuis un mois. Vous m'avez devancé, remarqua Ardyn en riant. Parfait. Ah, pendant que j'y pense, se reprit-il en baissant la voix. L'ambassadeur Verisov rentre sur Terminus. Pour peu de temps, j'espère. Il y eut un bref silence embarrassé, puis Lee demanda « Que disait le message ? Est-ce que ça craque déjà ? Je ne sais pas. Il faut que je voie d'abord ce que Verisov a à me dire. Mais c'est bien possible. Après tout, il faut bien qu'il tente quelque chose avant les élections. Mais dites-moi, pourquoi cet air consterné ? Parce que je me demande comment tout cela va tourner. Vous êtes trop renfermé, Ardyn. Vous cachez trop votre jeu. Toi aussi, Brutus, murmura Ardyn. Et tout haut, il répliqua. Cela signifie-t-il que vous allez vous inscrire au nouveau parti de Cermak ? Bon. Fit Lee en souriant. Mettons que je n'ai rien dit. Si nous allions déjeuner,